Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, à l'écoute de France Culture, vous retrouvez maintenant le service protestant qui vous est présenté par Jean-Luc Gadreau. Ce 29 novembre 2020 marque le début de l'Avent, ces quatre semaines précédant Noël, où l'on se prépare à la venue du Christ, autrement dit à sa naissance. Une période faite notamment d'attente et d'espérance. Mon invité ce matin sera dans quelques instants la pasteur Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, pour nous conduire dans une réflexion spirituelle. Mais avant et pendant les quatre dimanches de l'Avent, nous commençons ce service protestant avec une chronique, celle de Vincent Smetana, qui est à la fois artiste et secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique. Avant, pendant et après. Et puis quoi encore, Vincent Smetana ?
Et voilà, c'est reparti pour le décompte d'avant l'avant, le chemin décompté et compté d'une attente, cette attente immense et chaque année renouvelée de l'avènement de ce quelque chose de mystérieux qui si souvent nous manque, cette impression de pas encore vu qui chatouille tout à la fois notre appétit de vie et de sens, notre curiosité fondamentale et notre foi. Nous y voici, premier dimanche de l'avant. D'ailleurs j'ai dit décompte d'avant l'avant, mais c'est faux, je suis d'ailleurs très étonné que vous ne m'ayez pas repris Jean-Luc, c'est faux, j'aurais dû dire... Saison de cheminement singulier dans l'attente émue de Noël, disposition du cœur, renouvellement de l'aptitude à regarder le vivant dans l'espérance d'un bouleversement annoncé par une naissance, ou même, allez je vais oser l'audace, une renaissance de nous, de notre regard, de notre cœur intérieur. Sauf que si souvent, bien sûr, ce n'est plus du tout ça. Et ouais, je sais bien à quoi vous pensez, Jean-Luc. L'avant, c'est une brèche commerciale, voilà. C'est plus exactement un cheminement vers un prodigieux avènement, non. C'est juste un décompte excité d'ouverture des fenêtres d'une maisonnette en carton à punaiser sur la porte de la chambre des enfants ou à scotcher sur le flanc du frigo. Et vas-y que chaque jour, je t'ouvre les petits volets de la petite fenêtre pour en défenestrer une surprise chocolatée. On ne pense pas. Plus du tout à ce qu'on attend, si ce n'est ça, un jouet, une bille, un boudin en masse-pain, cette valeur des jours de l'avant, ce désir de faire silence pour reconsidérer cette trajectoire d'espoir. Chut, disparu. Sait-on même combien de jours et pourquoi et pour qui ? Allez, disons-le, les calendriers de l'Avent traditionnels peuvent avoir entre 22 et 28 jours, mais les versions commerciales modernes en tiennent rarement compte, n'est-ce pas ? Et on n'a que 24 cases, puisque, dit-on, le jour de Noël, proprement dit, le 25 décembre, ne compte pas. Alors ça c'est trop drôle, le jour de Noël ne compte pas, mais comment ? Parce que le 25 décembre, toutes les fenêtres sont ouvertes. Parce qu'on a mangé tout ce qui se cachait dans chaque pièce de la maisonnette. Allez, tout le monde au salon, objectif sapin, ruban et papier d'argent. Bon, ok, d'accord, je vais pas faire mon cynique, Noël, c'est chouette, c'est trop chouette. Mais on n'y est pas encore, alors revenons un peu à l'avant, A-V-E-N-T, avant, du latin adventus, pour dire venue, avènement, période durant laquelle les fidèles préparent leur cœur intérieur à célébrer la venue de celui qui sera cet événement inouï, sublime et décisif pour l'humain qui fait le choix de ça, la venue de la lumière, l'avènement de la lumière du monde, de celui qui dit qu'il est la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie, Jean 8. Derrière les derniers volets de la dernière fenêtre, il y a mieux que du chocolat, il y a ça. L'avènement de lui, lui qui nous sort de notre grand sommeil, qui nous donne de goûter à l'éclat de son geste pour nous, tout ce qui de lui en nous est lumière et merveille. Là, c'est l'avant, cet élan patient de silence, de désir et de foi vers cette source qui vient révéler le mouvement, la beauté vraie, le vraiment vivant. Alors oui, nous voilà nous ici dans l'avant, à attendre, à positionner cette part fragile et intime de notre foi, à désirer vivre en vrai ce que ce temps de Noël vient annoncer et signer au-dedans de nous. Qu'attendons-nous, hein ? Qu'attendons-nous ? Cette question peut être complétée par diverses propositions finales qui délimitent le contexte dans lequel elle se pose, écrit le philosophe Yves-Jean Harder. pour être heureux, pour faire notre devoir, pour nous convertir, pour écouter les conseils de nos amis, pour arrêter de manger trop de mauvais chocolat caché dans des maisons en carton, ou pour enfin nous lever et nous mettre en marche. La liste est indéfinie, mais dans tous les cas, la même structure se retrouve. Peu importe ce en vue de quoi nous attendons, c'est toujours vivre. Vivre vraiment, vivre en plénitude, vivre en étant délivré de ce qui nous amoindrit, nous mutile, et qui fait que, comme on dit vulgairement, mais justement, c'est pas une vie ça. Car bien sûr oui, si souvent nous sommes empêchés de vivre par un obstacle qui s'interpose entre nous et notre existence, or en vrai, ce que nous attendons, c'est que cet obstacle soit levé. Alors disons ceci, et si ce temps de l'Avent était là justement pour lever peu à peu et jour à jour l'obstacle, pour nous laisser apprivoiser ce qui de nous devient, mais en mieux, en neuf, en tout nouveau, hein ? Allez, à la semaine prochaine.
Merci Vincent Smetana. Je retiendrai donc que l'Avent est une invitation à vivre vraiment en étant délivré de tout ce qui nous amoindrit. Intéressant en effet. Et comme vous le soulignez justement, nous vous retrouverons dimanche prochain pour une nouvelle chronique avant, pendant et après. Je me tourne maintenant vers mon invité de ce premier dimanche de l'Avent, la pasteure Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Et je vous laisse donc toute la place, Emmanuelle. Bonjour.
Bonjour Jean-Luc, merci. Chers auditeurs, chères auditrices, en effet, ce dimanche 29 novembre est, pour les protestants et les catholiques, le premier jour de l'année liturgique, je veux dire. Ce dimanche ouvre le temps de l'Avent avec un E, qui vient du latin adventus, qui signifie avènement ou arrivée. Pendant ce temps de l'Avent, les chrétiens se préparent à accueillir la venue du Messie. Vous savez, pour aider les enfants à attendre la joie de Noël, on rivalise d'imagination dans l'élaboration des calendriers de l'Avent, par exemple. Calendrier spirituel, calendrier ludique ou même gourmand, que l'on peut trouver aussi pour les grands maintenant. Se préparer à vivre Noël. Il faut avouer que cette année, la préparation a une saveur très particulière, un peu amère, il faut le dire. À ce jour, il est encore difficile de dire comment nous fêterons Noël ? L'incertitude règne. Pourrons-nous nous déplacer ? Pourrons-nous nous retrouver en famille ? Pourrons-nous célébrer dans les églises ? Autant d'inconnus qui nous empêchent de goûter la joie de Noël par anticipation. La fête de Pâques avait déjà été vécue dans un confinement strict. Il serait très douloureux de vivre Noël de cette manière, tant la dimension familiale et communautaire est importante à Noël. Mais si l'attente couvre l'Avent n'était pas que cela, et si le premier jour de l'année liturgique était le premier jour du reste de ma vie, dirais-je pour plagier un film célèbre. Alors aujourd'hui nous pouvons entendre dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, les versets 32 à 37.
Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin, craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez.
Prenez garde, restez éveillés, dit Jésus dans l'évangile de Marc. Mais que se passe-t-il ? Y a-t-il un danger ? À quoi devons-nous prendre garde ? Si le lecteur a la curiosité de lire les versets qui précèdent, à partir du début du chapitre 13 de l'évangile de Marc, il découvre que les interlocuteurs de Jésus, ses disciples ici, le questionnent pour savoir quel sera le signe que tout cela est sur le point de s'achever ? Pour résumer, quand viendra la fin du monde ? Il faut dire que Jésus vient d'annoncer aux disciples qui s'extasient devant la beauté du bâtiment, la destruction du temple de Jérusalem. Comment saurons-nous que ce sera la fin ? Quel sera le signe ? Demande un disciple. Jésus commence alors une description bien sinistre. Guerre, rumeurs de guerre, violence, séisme, famine, pseudo-messies qui enflammeront les foules, persécution, division au sein d'une même famille. Aussi effrayante que soit cette description, elle est hélas assez fidèle à ce que nous connaissons. Le texte, il est vrai, ne parle pas de maladie, mais nous pourrions allègrement l'ajouter à la liste, avec une bonne dose de réchauffement climatique en plus, pour compléter le tableau. On pourrait dire, rien de nouveau sous le soleil, le monde est vraiment mal en point, et depuis longtemps. Le récit ne dit pas autre chose, puisque Jésus ajoute, « Quand vous verrez tout cela, eh bien, ce ne sera pas encore le moment. » Commentaire personnel, on est bien avancé. Et Jésus ajoute que même lui ne sait pas quand sera le temps.
Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul.
Ce texte, comme les autres textes de type apocalyptique, ne fait que mettre en récit le monde présent. Et même cette expression « l'abomination de la désolation » qui apparaît au milieu du chapitre, n'est pas une réalité unique. Dans l'Israël antique, cette expression renvoyait à la profanation du temple de Jérusalem, lieu de la présence de Dieu. Mais à l'époque où Marc écrit son évangile, le temple de Jérusalem a déjà connu 4 destructions ou profanations. Pour vous donner les dates rapidement, c'était avant Jésus-Christ, en 586, 167, 63, puis ce qu'a connu Marc, sans doute, la destruction du temple, en 70 de notre ère. L'abomination de la désolation peut donc arriver plusieurs fois sans que ce soit encore la fin du monde, ni le début d'un monde nouveau. Mais encore, nous pouvons connaître nous-mêmes, dans notre chair, l'abomination de la désolation. On peut sans doute nommer ainsi les génocides, les guerres, les catastrophes naturelles, les épidémies, et au plan personnel, la maladie, l'épreuve, la violence, et toutes ces situations qui nous détruisent. Le texte est réaliste, c'est entendu. Mais alors, quel est le lien avec l'interpellation de Jésus « Prenez garde, restez éveillés » Et pourquoi lire ce texte au début de cette période qui nous conduit à Noël? Sincèrement, nous n'avons pas tellement besoin de rester éveillés pour regarder tout ce que nous avons journellement sous les yeux. Et même bien souvent, j'aimerais fermer les yeux pour ne pas voir tout cela. Et aussi j'aimerais m'endormir et me réveiller ensuite dans un nouveau monde où tout serait plus beau.
Thank you.
Nous venons d'écouter les premières mesures de la cantate 62 de Jean-Sébastien Bach pour le premier dimanche de l'Avent. Le texte du premier chœur dit ceci.
Maintenant, viens, sauveur des païens, reconnu dans l'enfant de la Vierge. Le monde entier s'étonne que Dieu ait prévu une telle naissance.
Jean-Sébastien Bach donne sa propre interprétation de l'attente de l'Avent. Et comme toujours dans ses cantates, il fait une œuvre théologique. Il s'agit d'accueillir le sauveur de tous les peuples en cet enfant né d'une vierge. Des naissances miraculeuses, la Bible n'en manque pas. Rien de tout à fait exceptionnel, pourrait-on dire. Mais que cet enfant soit reconnu comme sauveur, Dieu fait homme, que Dieu s'abaisse à prendre chair, à prendre corps, voilà qui peut bien étonner le monde entier et même choquer ou émerveiller, c'est selon. Alors si Bach annonce dès le début de sa cantate pour le premier dimanche de l'Avent ce qui doit être fêté plus de 4 semaines après, c'est peut-être aussi pour que chacun ait le temps de se préparer justement à approfondir ce que signifie le sauveur des païens reconnu dans l'enfant de la Vierge. L'auditeur de la cantate se reconnaît-il comme faisant partie de ces peuples, de ces païens, comme disent les textes anciens ? Et est-ce que l'invitation de Jésus à prendre garde, à veiller, ne serait pas faite pour ne pas passer à côté de cet événement étonnant, choquant ou merveilleux ? Puisqu'il ne s'agit pas d'attendre la fin du monde, ne s'agit-il pas alors de se préparer à accueillir quelque chose de complètement neuf, inédit ? La petite histoire que nous avons entendue tout à l'heure est extraordinairement banale, à l'époque de Jésus bien sûr. Un homme part en voyage. Il laisse ses serviteurs à la maison, chacun responsable de ses propres tâches. Ils ne savent pas quand le maître va rentrer. Malheur à celui qui sera trouvé endormi à l'arrivée du maître. Je voudrais souligner 2 choses dans cette histoire minuscule. Premièrement, les serviteurs n'ont aucune idée du jour et du moment où le maître va revenir. Deuxièmement, ils sont certains qu'il va revenir. D'un côté, ils n'ont aucune connaissance, à part la certitude du retour du maître. Je comprends de ce texte que je ne dispose d'aucun savoir particulier, sur Dieu, comme sur autre chose d'ailleurs. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, ni quand ce vieux monde finira. Je ne suis pas autorisée à annoncer la fin du monde, Jésus lui-même ne se l'est pas permis. Ce non-savoir, nous en faisons la cuisante expérience en ce moment, où il nous est si difficile de programmer quelque chose. Si nous jetons un regard en arrière, et si nous essayons de nous imaginer en février dernier, c'est bien difficile. Combien de choses avons-nous dû abandonner depuis ? Combien de projets n'ont pu être menés à bien ? Combien de situations solides se sont trouvées fragilisées du jour au lendemain, du fait de la pandémie ? Notre existence entière a été bouleversée. Nos mains ne tiennent plus rien de certain. Ce qui avait de la valeur est devenu sans importance. Et ce qui était invisible s'est trouvé mis en lumière en une nuit. Et même les savants se sont retrouvés dans l'ignorance. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, tout comme les serviteurs de l'histoire ignorent quand leur maître reviendra. Mais alors, comment vivre dans cette ignorance, dans ce non-savoir ? L'histoire racontée par Jésus dit simplement « Faites votre travail. Vous ne savez rien. » C'est peut-être le propre de l'humain, finalement. Mais faites votre travail. Tenez votre poste. Chacun sa charge. Les serviteurs de la maison savent ce qu'ils ont à faire dans l'attente du retour du maître. La maison, c'est le monde. Je suis dans le monde avec toutes ses souffrances et ses joies. Je ne peux pas m'en éloigner. Je ne peux pas le fuir. Je dois même y être au travail, sans me laisser aller à m'endormir. La responsabilité de chacune et chacun et d'agir là où il est, selon sa formation, selon sa vocation, selon son métier, selon ses engagements, selon ses dons, selon ses responsabilités. Si l'incertitude me fait peur, si elle me déstabilise, elle ne doit pas me faire douter de ma vocation. Être dans ce monde où Dieu s'est incarné lui-même, dans ce monde que Dieu aime. Comment tenir dans ce monde ? Comment faire mon travail ? Avec la peur de l'avenir et l'ignorance de quoi demain sera fait ? Si les serviteurs ne savent rien, ils ont une certitude, le maître reviendra. Je ne sais rien, et pourtant je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant et qu'il vient, et cela change tout. Que signifie vivre avec comme seule certitude, comme seule assurance, la venue du Sauveur ? Oh, le monde est toujours aussi laid et aussi inquiétant, mais il porte en germe la possibilité de la justice et de la paix. Dans le regard que je pose sur ce qui m'entoure, je devine les traces de la vie plus forte que la mort. J'y cherche les prémices de la justice. Je tente de préserver les chances de la paix. Je choisis ce qui unit plutôt que ce qui divise. Je bénis au lieu de maudire. Quand tout semble voué à la destruction, quand tout semble perdu, l'espérance de la venue du Sauveur est comme une petite lueur dans le noir absolu, aveuglante. L'attente est espérance.
Vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous dans le service protestant et avec la pasteur Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil National de l'Église Protestante Unie de France, qui continue donc sa méditation autour de ce texte et de ce premier dimanche de l'Avent.
Et de la cantate de Bach, « Viens maintenant, Sauveur des païens », cette cantate 62 pour le premier dimanche de l'Avent. « Prenez garde et veillez, dit Jésus. Viens maintenant, sauveur des païens, fait chanter Jean-Sébastien Bach. Appel à être vigilant pour ne pas passer à côté de l'essentiel de ma vie. Le monde n'est pas prêt de changer, mais en moi, tout peut changer. Mon vieux monde à moi peut être transformé par l'accueil de ce sauveur, cet enfant né d'une vierge qui engage Dieu dans le monde. L'Avent est le temps de la vigilance. » Et quand Dieu appelle, pourquoi fermer nos oreilles ? L'Avent est le temps de la bienveillance, où je peux m'éveiller à ce que je n'ai jamais su dire. L'Avent est la saison du pardon, pas seulement du bout des lèvres, mais du fond du cœur. L'Avent est la saison de l'accueil, celui de la parole de l'autre qui vient bousculer mes convictions. Encore et toujours, cette parole de l'autre me redit la grâce et la paix sont données de la part de Dieu Père et de Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Alors ce premier jour de l'Avent peut devenir le premier jour du reste de ma vie dans l'espérance. Le poète le dit à sa manière.
J'attends le vent qui porte demain. J'attends la consolation de mon peuple. J'attends le Messie des prophètes. J'attends l'aube qui lèvera nos troupeaux ou l'astre qui scintillera notre route. J'attends, dans le clair-obscur de notre histoire, que vienne le matin de son règne. J'attends le premier labour du soc forgé d'épée et les épousailles de justice avec la paix. J'attends, dans le froid matin, la fin de la crise et le printemps de l'espérance en ce siècle.
Et moi, dit le Seigneur, j'attends aussi. J'attends que tes mains de prière et de labeur dénouent les ronces de l'injustice et la brume du désespoir. Alors sur cet étroit chemin, tu entendras mes pas et tu verras marcher l'attente de ta foi. La paix soit avec toi. Bon temps de l'avant à chacune et à chacun.
C'était le service protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Anne-Laure Chanel et avec Laurie Vachon à la prise de son. Cette émission aujourd'hui nous a permis de recevoir la pasteur Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Un service protestant à écouter et podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France, également disponible en ligne sur protestantaupluriel.org, où vous pouvez aussi d'ailleurs télécharger le texte du jour. Une adresse postale, service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Et pour le courriel, communication@fédérationprotestante.org. Je vous souhaite un très bon premier dimanche de l'Avent, porteur d'espérance et de foi, malgré les difficultés du moment. Et je vous laisse tout de suite avec les informations sur France Culture qui seront suivies de l'émission Talmudique.